Mon mari garait la voiture. En entrant dans la pièce, que s'est-il passé? Ne le voyant pas sur son canapé ou à son ordinateur, je suis allé dans sa chambre. Il se trouvait dans son lit, allongé. Vous avez compris tout de suite? Oh oui, il était livide et froid surtout, si froid. Il est mort pendant son sommeil. J'ai su plus tard que ça devait faire plus de 12 heures. Je sais qu'il est mort en paix parce qu'il était dans son lit. Le drap n'avait pas un pli. Son visage semblait complètement détendu. Il est parti, simplement. Il est vraiment parti pendant son sommeil. De le découvrir, ça a été quelque chose. Physiquement, j'ai eu mal. Ma langue est devenue comme un morceau de bois. Mon corps était tétanisé, mais j'ai tout de suite senti qu'il n'y avait là que son écorce. Mon fils n'était plus présent. Il n'y avait plus que cette enveloppe charnelle. En état de choc, Mireille appelle son mari, puis la police. À son frère, qu'elle a ensuite au téléphone, elle hurle « Brice est mort !» Un cri d'horreur sorti du plus profond d'elle. « Comme si j'avais besoin de hurler la nouvelle à tout le monde, à tous les gens que j'aimais et que je connaissais. » C'est impensable, inexplicable. Comment Brice est-il mort? Pourquoi? Aucune trace d'effraction, ni de lutte. La mort semble l'avoir emporté sans violence. Mais il n'était pas malade. Tout allait bien pour lui. Tout allait si bien. La soirée est irréelle. Un cauchemar. Police, évacuation du corps, retour à la maison dans la nuit. Obscurité. Dans sa chambre, Mireille s'effondre. Elle tombe littéralement dans un sommeil sans rêve, douce et salutaire inconscience. Mais au petit matin, la lueur naissante du jour la ramène à la réalité. Elle est allongée, les yeux encore fermés, et soudain, elle replonge dans le cauchemar. En quelques secondes, les événements de la veille explosent dans sa mémoire. Elle essaie de s'accrocher encore à l'idée que toute la journée d'hier n'a été qu'un mauvais rêve. Mais non. Elle ouvre les yeux et j'ai vu le visage de Brice au-dessus de moi, couvrant tout le plafond. Cette espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, ce n'était pas comme une image. J'ai reconnu son visage. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai compris que c'était lui. Je le percevais, il était là, et il m'a dit « Mais, maman, c'est encore mieux que ce que tu nous avais dit. C'est super. Tu peux pas t'imaginer. »
Étiez-vous dans le noir?
Non, le jour s'était levé. Il y avait de la lumière. Ça n'a pas duré longtemps. C'est quelque chose qui a rempli mes yeux, le plafond, la chambre et moi. Je ne sais pas comment vous dire.
Combien de temps pensez-vous que cela ait duré?
Quelques secondes. C'était à la fois une image, mais pas une photo. Ça ressemblait un peu à une vidéo, mais ce n'en était pas une. Je ne sais pas comment vous dire. Peut-être un nuage. Ça remplissait l'espace.
Vous n'avez pas été effrayé?
Non, parce que j'étais dans un état qui me paraissait déjà si irréel. Ça m'a bousculé et en même temps mise tellement en paix. Ça m'a donné la force de respirer à nouveau, dans l'instant.
Quand vous avez eu cette vision, étiez-vous seul dans la pièce?
Non. Mon mari était allongé à côté de moi.
Il dormait?
Je l'ai réveillé et je lui ai raconté.
Quelle a été sa réaction?
Oh! Mon mari est un homme plein de respect. Il n'a porté aucun jugement et il est resté silencieux.
Lui n'a rien vu?
Non.
N'avez-vous pas douté de la réalité de votre perception?
Bien sûr. Je ne suis quand même pas stupide au point d'ignorer que, lorsque l'on est en état de choc comme je l'étais, tout peut se passer. J'ai cru avoir perdu la raison. Je me suis sérieusement demandé si je ne commençais pas à dérailler.
Comment savoir que ce n'était pas votre imagination, alors ?
À cause de la paix que ça m'a procurée. L'apaisement. Et surtout, ce que j'ai ressenti en percevant les paroles qu'il m'adressait était plus fort que tout, plus fort que ce que mes yeux observaient. Ça me remplissait complètement, comme si ce que mes yeux voyaient devait juste capter mon attention et que les mots, ces mots, me remplissaient.
Ces mots, vous les avez entendus ?
Ils m'ont rempli. Je ne sais pas comment dire autrement. Ce n'est pas seulement ce que j'ai vu ou perçu. J'ai été submergé. Et oui, cette vision m'a apaisé. Elle m'a fait sortir de la mort.
Mireille se lève. Une nouvelle journée commence. Elle est assaillie de tristesse et de désespoir. Elle veut comprendre le sens de ce décès et les raisons. Pourquoi Brice est-il mort ? Que s'est-il passé ? Il lui faut des réponses. Le souvenir de la vision du réveil, cependant, est là, en elle, comme une petite étincelle étrange et mystérieuse, une parenthèse, une ouverture. Dans les heures, les jours, les semaines qui suivent, elle y repense régulièrement quelques secondes, un temps à part, avant que la douleur ne l'enserre à nouveau. L'autopsie n'apporte aucun éclaircissement. Toutes les pistes ont été examinées. Empoisonnement, rupture d'anévrisme, etc. Mireille, qui tient à en prendre connaissance, découvre une liste impensable de causes potentielles, mais toutes ont été écartées. Le rapport conclut que le décès de son fils demeure incompréhensible. Pendant l'année qui suit, Mireille s'accroche au souvenir de cet instant singulier où elle a vu le visage immense de son fils et entendu ses mots si apaisants. Un an durant lequel elle est incapable de reprendre son activité d'enseignante, trop submergée par le chagrin. Un an qu'elle s'accorde pour le pleurer et se guérir. Au fond d'elle, Mireille sait que son fils, qu'il aimait, ne supporterait pas de la voir s'enfermer dans la douleur. Elle veut faire quelque chose de cette mort. Mais quoi ? Comment grandir ? Un an et demi après le départ de Brice, elle devient coordinatrice du réseau de soins palliatifs dans sa région. Une fonction qu'elle va occuper 4 ans. Mais avant cela, Mireille va chercher par tous les moyens à entrer à nouveau en contact avec Brice. Ses rencontres avec de prétendus médiums la déçoivent.
J'en ai rencontré des charlatans, et rien ne se passait. Jusqu'au jour où j'ai compris que cela avait peut-être à voir avec le fait que j'étais dans l'émotion et le chagrin, et que je n'avais pas retrouvé la paix.
Que voulez-vous dire ?
Peut-être n'étais-je pas à même de recevoir davantage. En fait, je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ce silence, cette absence de signe de mon fils, est l'une des choses qui ont contribué à me convaincre de travailler sur moi, afin de retrouver la paix intérieure, la paix dans mon cœur.
Plus d'un an après la mort de Brice, suite à un accident cardiaque, Mireille doit passer plusieurs jours en observation à l'hôpital. L'alerte est passée, sa santé est bonne, plus de fièvre ni de douleur, mais elle est néanmoins contrainte à cette hospitalisation de surveillance. Mireille compte les heures, allongée dans une chambre où elle a demandé à ce que la climatisation soit coupée.
Il est 20 heures passées. Le médecin n'est pas revenu, comme il le lui avait pourtant promis, afin de lui donner les résultats des examens. Mireille bouillonne et s'en veut rapidement de s'énerver ainsi.
Elle décide de prendre son mal en patience, quand, subitement, elle perçoit comme un souffle sur son visage un vent doux et tiède qui descend le long de son corps. Une caresse.
Ce vent m'envahissait. L'impression que quelque chose m'imprégnait, alors que ces mots, je les percevais comme des mots, mais aussi comme des sensations, s'imposaient à moi. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas, la mort n'existe pas. La mort est une histoire terrestre, décrite par les hommes. La mort n'existe pas. On est tous ensemble. On est là, avec toi. »
C'était une voix ?
À nouveau, comme le lendemain de la mort de Brice, c'était un tout. À la fois, la sensation d'être envahi, des mots. Mais là, je me suis dit, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je perds la tête. »
Et j'ai eu le réflexe de demander à haute voix,
« Qui est en train de me parler ? Si c'est toi, mon Brice, ou si c'est toi, papa, mon père était décédé l'année d'avant, pour être sûr que je ne rêve pas, recommencer. »
Et alors ?
J'ai à nouveau senti le vent, cette fois sur mes pieds, puis remonté jusqu'à la tête. Et pendant que ce souffle me couvrait, j'ai entendu à nouveau le même message. J'ai eu une longue période de paix après cela. J'ai pu commencer à faire quelque chose de la mort de Brice. Surtout, j'ai donné un nouveau sens à ma vie, une nouvelle ligne de conduite et de pensée.
La sérénité, le calme, la manière de s'exprimer de Mireille m'impressionnent. Je la trouve si solide, si cohérente dans le regard qu'elle porte sur ces 15 dernières années. Je la sens aujourd'hui profondément habitée.
Votre fils était-il croyant ? Il était dans une grande spiritualité, assez détaché des biens terrestres. Il lisait beaucoup. Le livre qui avait provoqué un déclic chez lui était « La première et dernière liberté » de Krishnamurti. Ce livre avait déclenché quelque chose. Une curiosité qui n'a plus cessé. À l'époque, j'étais dans le jugement permanent des autres et de moi-même. J'en suis peu fier, mais c'est ainsi. Et Brice me disait « Mais maman, arrête, arrête! Si tu savais le mal que tu fais à l'univers, arrête ces comportements, arrête de juger, tu ne connais pas les autres. » Donc, après son décès, je vous assure que je me suis guéri de tout ça. Car après sa mort, en fait, à un moment, ça a été difficile pour moi de l'admettre, mais c'est comme si Brice n'était plus mon fils. Il est devenu mon père spirituel. Ce fut un moment pénible pour moi qui pensais avoir failli dans mon rôle de mère. Vous savez, quand un parent perd un enfant, quel que soit son âge, il y a toujours cette idée qu'il n'a pas été à la hauteur. Même si Brice avait 26 ans, je me suis dit que je n'avais pas su le protéger. Voilà, il était parti, il était mort. Il a fallu que je passe le cap de me dire qu'il était plus grand que moi. C'est lui qui me protège maintenant. C'est lui qui me guide. Il est venu pour m'apprendre. Aujourd'hui, je remercie mon fils de m'avoir choisi pour mère, de m'avoir fait vivre l'expérience de la séparation. Je le remercie d'avoir éclairé et de guider ma vie, même si parfois, un jour comme aujourd'hui par exemple, l'émotion remonte.
Chapitre 12. Les premiers temps après la mort. Est-il simple de comprendre que l'on vient de mourir ? Pour approfondir cette question essentielle, j'ai eu envie de me tourner vers Sylvie Ouellet, une personne dont j'ai pu constater à la fois la précision indéniable des capacités extrasensorielles et aussi et surtout un très rassurant sens des réalités. Cette conférencière, formatrice et médium d'origine québécoise, a écrit de nombreux ouvrages sur la vie après la mort. Elle y présente le fruit détaillé de ses recherches et de ses ressentis. Notaire à l'origine, Sylvie a les pieds sur terre, et c'est important quand on veut aborder avec sérieux le domaine de l'au-delà. Sylvie n'est pas née avec ce don comme d'autres médiums que j'ai rencontrés. Elle ne voyait pas les morts durant son enfance. Sa médiumnité lui est apparue sur le tard, à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, des années après s'être familiarisée avec cette nouvelle vie, Sylvie n'utilise pas ses capacités pour transmettre des messages de défunts dans le cadre de consultations. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle perçoit ce monde invisible. Il émane d'elle à la fois une profonde joie intérieure et une gentillesse pétillante. D'après elle, ce qui se passe dans l'au-delà est très similaire à ce qui se passe ici. Car le monde des morts ne serait que le prolongement du monde dans lequel nous vivons. Nous y entrerions avec nos bagages.
Beaucoup pensent que la manière dont on décède, accident soudain ou longue maladie par exemple, impacterait notre cheminement de l'autre côté.
Sylvie précise que c'est la conscience que l'on a de ce qui est en train de se passer au moment où l'on meurt qui serait décisive.
Nos premiers pas dans la mort constitueraient une étape importante.
Ils détermineraient ce qui adviendra ensuite.
D'où la nécessité de bien comprendre ce qui se joue.
Ne pas réaliser que l'on vient de mourir pourrait conduire à un certain immobilisme, un temps de confusion. Un peu comme dans le film Sixième Sens, où le personnage joué par Bruce Willis continue d'exercer son métier parce qu'il n'a pas compris qu'il était décédé.
Plusieurs phénomènes étranges se produisent autour de lui. Il ne parvient plus à communiquer avec sa femme et rejoue sans cesse son quotidien, comme s'il était encore en vie sur Terre.
Quantité de médiums m'ont décrit des situations similaires. Des défunts qui rejouent sans arrêt ce qu'ils faisaient au moment de mourir.
Être conscient de sa mort ne serait donc pas si évident.
Alors, vivre dans une société qui rejette le spirituel n'est-il pas un handicap pour effectuer ses premiers pas dans l'au-delà? Même si la moitié des Français considèrent qu'il y a quelque chose après, en avouant d'ailleurs ne pas trop savoir quoi, pour une proportion équivalente, la mort est synonyme de néant.
Dans ces conditions, comment comprendre que l'on est mort quand on se réveille de l'autre côté, tout à fait conscient?
Ça doit être compliqué pour ces gens qui meurent sans avoir d'ouverture spirituelle.
Et en Occident, ça représente une majorité de personnes.
Ne pas être ouvert spirituellement ne signifie pas que l'on ne sera pas conscient d'avoir quitté le corps physique, m'assure Sylvie. Il s'agit de deux choses complètement distinctes. C'est davantage en lien avec notre capacité à lâcher prise, notre faculté d'adaptation.
C'est-à-dire,
par exemple, entrer dans la mort sera plus simple pour les gens qui ont facilement fait des choix dans leur vie, qui savent plutôt aisément passer d'une situation à une autre, qui ont eu des relations assez claires, qui peuvent être très conscients de ce qui se passe autour d'eux. On peut être dans ce type de disposition sans pour autant avoir la moindre ouverture spirituelle. Ces personnes sont juste actives et lucides dans leur rapport à la réalité.
Elles se rendront très vite compte de ce qui leur arrive une fois mortes.
Elles seront sans doute surprises, mais pas confuses ni immobiles. Et puis, l'un des paramètres importants est que la mort se prépare avant de partir.
Que veux-tu dire?
Dans le processus normal de la mort, c'est l'âme qui appelle la mort.
Ce que Sylvie désigne par âme est notre part supérieure, notre moi profond.
Cette dimension de nous qui existe avant la naissance s'engage en s'incarnant dans telle ou telle mission de vie et survit à la mort du corps.
Notre âme choisirait de s'incarner dans un environnement familial, social, géographique, pour travailler telle ou telle question, sans que cela signifie pour autant qu'elle déciderait des différents aléas rencontrés durant la vie, drame, accident, mort.
Une fois incarnée, notre âme est doucement recouverte par la personnalité de l'être qui vient de naître.
À mesure que nous grandissons, notre fonctionnement psychologique, nos peurs, nos désirs, nos pensées, notre activité mentale permanente nous coupe progressivement de notre âme.
Comme si un habit trop dense engloutissait notre dimension subtile au point de nous faire oublier son existence.
Oublier que les choix de l'âme président à notre existence matérielle.
L'âme s'orienterait en effet vers telle ou telle vie afin qu'elle soit le théâtre de l'apprentissage de telle ou telle grande question majeure. Au cours de cette vie, des épreuves émergeraient que nous n'aurions pas délibérément choisies en vue de nous offrir autant de possibilités de prise de conscience. Notre âme choisirait ainsi le cadre global d'une existence sans nécessairement élaborer le détail de tous ces moments qui la constituent. Entre un déterminisme où tout serait écrit à l'avance et une existence dont tous les événements ne seraient dus qu'au hasard, il existerait une voie médiane. C'est un peu comme pour un étudiant, reprend Sylvie. Il ne détermine pas la teneur de ses examens ou le contenu de ses cours, bien qu'il ait choisi le type d'études dans lesquelles il s'est engagé. Qu'entends-tu par « c'est l'âme qui appelle la mort » ? Au moment d'effectuer toute préparation, comme la naissance ou la mort, l'être n'est pas sur le plan terrestre, dans la dimension où ne s'exprime d'ordinaire que la personnalité. Les choix qui s'opèrent dans cette dimension n'ont donc plus rien à voir avec les désirs et les émotions personnelles, mais avec un niveau de conscience plus vaste. La mort est dans cette dimension un simple passage qui s'anticipe. Ainsi donc, certains événements de nos existences seraient peut-être déjà fixés à l'avance par une dimension plus grande de notre être. Dans l'aveuglement de notre quotidien, on ne verrait en eux que des épreuves absurdes et injustes. Au niveau subtil de l'âme, la mort est une simple étape dans son processus d'évolution. Cela rejoint ce que disait Pierre Teilhard de Chardin quand il relevait fort justement que l'homme est un être spirituel faisant une expérience humaine. On imagine dès lors combien la clôture de notre expérience humaine pour l'âme qui la vit est un moment qui se prépare à l'avance. Ce qui est surprenant est que Sylvie évoque une préparation de notre âme à la mort, quelles que soient les circonstances du décès, en dehors des suicides. En outre, et en règle générale, le processus serait complètement inconscient. Que l'on parte à l'issue d'une longue maladie ou que l'on décède de manière subite, ces étapes préparatoires seraient néanmoins potentiellement décelables. Signe prémonitoire, remarque curieuse faite par la personne avant sa mort, même si cette mort est alors parfaitement imprévisible. Quand je dis que l'âme appelle la mort, cela signifie que des mois avant, et à un niveau imperceptible pour la plupart des gens, notre conscience commence à aller épisodiquement de l'autre côté. Il s'agit d'une sorte de reconnexion progressive avec notre nature spirituelle en vue de préparer le passage.
Mais la plupart des gens n'ont pas conscience de cela.
Non, en effet. Cela se produit essentiellement à un autre niveau de conscience, notamment dans les phases de sommeil profond ou dans ces périodes de semi-coma chez les personnes en fin de vie. Tu sais, lorsqu'on a l'impression que, par moments, elles ne sont plus avec nous. Eh bien, elles se préparent. Leur âme se prépare à repartir. Si l'on y prête attention, on peut observer des signes de ces étapes préparatoires.
En fin de vie, je veux bien le croire, mais cela se produit-il également dans les cas d'accident? Cela voudrait-il dire que les circonstances de ces décès brutaux et soudains étaient déjà programmées?
Cela signifie que l'âme souhaitait quitter la terre à ce moment. La mort, comme la naissance, se prépare au minimum 9 mois avant la survenue du passage. Dans ces deux cas, un temps de gestation est nécessaire au changement.
Encore une fois, lorsque l'on meurt d'un cancer à l'hôpital, je peux l'admettre, mais quand on est fauché dans un accident de la circulation ou tué dans un attentat, cela voudrait dire que notre âme s'y préparait des mois à l'avance?
Ce qui se prépare, c'est le passage dans une autre dimension et toutes les transformations énergétiques que cela exige. Notre regard humain n'a pas le bon point d'observation pour juger des circonstances entourant la mort. Cela ne relève absolument pas de la compréhension inhérente à la personnalité, mais d'un plan plus vaste au service de l'ouverture de conscience non seulement individuelle, mais aussi collective. Je dis cela notamment parce que l'on peut observer les traces, les signes laissés par des gens même très longtemps à l'avance. Je te donne un exemple. La mère d'un de mes anciens voisins a dit pendant la fête organisée pour son 64e anniversaire « Oh, moi, je ne toucherai jamais ma retraite. Alors tout le monde s'est exclamé, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, à 65 ans, tu auras droit à la retraite comme tout le monde. » Pourtant, elle n'en démordait pas. Cette femme est décédée un mois avant son 65e anniversaire. 11 mois après avoir affirmé qu'elle ne toucherait pas de retraite. Au moment où elle faisait cette remarque, rien ne laissait présager qu'elle allait mourir. Elle était en parfaite santé, mais quelque chose en elle le savait déjà. Son âme. Je ne peux m'empêcher de penser à mon père, qui, 6 mois avant de mourir, m'avait fortement déstabilisé par une remarque similaire. Alors qu'il était en forme et qu'il était impossible pour lui comme pour nous de suspecter une mort prochaine, il m'avait annoncé avec une certaine gravité qu'il n'allait pas passer l'année à venir. Nous étions fin décembre 2012. Il est mort en juin de l'année suivante. Je me souviens comme si c'était hier des mots qu'il avait employés, et surtout, il semblait si certain